ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans 7 milliards de voisins. Beyrouth a désormais son Ground Zero. C'était le 4 août 2020, une double explosion de stocks oubliés de nitrate d'ammonium sur le port de la capitale libanaise faisait plus de 200 morts, 6500 blessés et laissait quelques 300 000 personnes sans abri. Depuis, le Liban continue de s'enfoncer dans la crise économique, peut-être la pire de son histoire selon la Banque mondiale. 78% de la population vit désormais sous le seuil de pauvreté selon l'ONU. La monnaie a perdu 90% de sa valeur face au dollar. Les prix ne cessent de grimper. Le pays n'a plus d'argent pour importer. Les médicaments sont devenus introuvables ou inaccessibles. Et le chômage avoisine les 40%. Le Liban, jadis surnommé la Suisse du Proche-Orient, a basculé dans la crise humanitaire. Alors comment survit-on quand le quotidien est aussi sombre? Quelles sont les conséquences pour les femmes et les enfants, premières victimes de l'effondrement du pays? Partir ou rester? Comment les Libanais gèrent-ils ce dilemme? Sans gouvernement pendant 396 jours, que peut attendre de la nouvelle équipe? Que peuvent attendre les Libanais de la nouvelle équipe annoncée la semaine dernière par le Premier ministre Najib Mikati?
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine. 7 milliards de voisins.
Iyam Yared, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivaine, romancière, poétesse libanaise et vous venez de publier Implosion aux éditions Équateur. Merci d'être avec nous aujourd'hui. À mes côtés également, Bilal Tarabet, bonjour.
Bonjour.
Vous n'avez eu que quelques couloirs à traverser puisque vous êtes journaliste à France 24, ancien correspondant à Beyrouth. Beyrouth où vous êtes retourné en août dernier pour le premier anniversaire de l'explosion qui a dévasté la capitale libanaise. Tout à l'heure, nous aurons en ligne de Beyrouth l'autrice de théâtre Valérie Cachard et notre correspondant au Liban, Paul Khalife. Mais je vous propose tout de suite d'écouter le témoignage de Hoda. Cette mère de famille a quitté l'enseignement, la crise a bousculé sa vie.
La crise économique et la crise du Covid, ça fait 2 ans, ce sont 2 crises qui ont affecté le Liban. Elle a affecté toutes les familles. Ça a changé notre mode de vie totalement. L'alimentation a beaucoup changé parce qu'on ne trouve plus tout ce qu'on veut dans les supermarchés. Si on trouve, on trouve à des prix trop chers et qu'on ne peut plus se les fournir. En plus, on ne trouve plus d'essence, les pénuries, pas de pain pour sortir, on ne peut plus se déplacer en voiture, on fait juste le strict nécessaire. Il n'y a pas de médicaments, on a peur d'avoir quelque chose parce que les hôpitaux, tu ne trouves plus rien. Tu n'as pas d'essence pour aller dans les pharmacies, d'une pharmacie à l'autre, pour trouver un sachet d'aspirine. Ça a changé beaucoup notre vie quotidienne. Nous, on a une petite maison avec un jardin, on fait un potager, on vend des légumes, on se les fournit pour notre maison. Notre poulailler qui était un passe-temps, c'est maintenant, on vit, on vend des œufs, on mange, on achète des autres choses, on vend les citrons, tout ce qu'on a dans notre jardin. Ce n'est plus un passe-temps, c'est un travail rentable pour nous. Et comme il n'y a pas d'État qui nous aide, c'est nous qu'on est obligés de tout faire. C'est moi qui plante, qui m'occupe du poulailler. Mais maintenant, il y a une pénurie d'eau puisqu'il n'y a pas l'essence, il n'y a pas le fioul. Pour pouvoir arroser nos plantes aussi, parfois on est obligé d'acheter de l'eau. En plus, moi, je bêche la terre et je récolte le matin, tôt, quand il n'y a pas de soleil, on fait tout. Et le soir, on récolte nos caroubes, on fait la molasse, on fait les olives, on fait tout ça pour pouvoir subsister. Comme j'ai une jeune fille, ses vacances d'école, elle a travaillé tout l'été pour pouvoir subsister à notre vie le strict nécessaire, le minimum.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
On va revenir sur les problèmes de la vie quotidienne qu'évoquait Hoda à l'instant. Mais d'abord une question, Iyam Yared. Où étiez-vous le 4 août 2020 à 18h07 quand s'est produite la première explosion d'une violence inouïe sur le port de Beyrouth ?
Moi ou ma narratrice ?
Ah, est-ce qu'il faut faire une différence justement entre les deux ?
Bon, c'est largement inspiré de moi, cette histoire d'implosion. Ma narratrice, en fait, est en thérapie de couple avec son mari le 4 août à 18h. À 18h07, ils sont propulsés par le souffle de l'explosion. Ils se retrouvent à terre, tous les trois, à quatre pattes. La thérapeute, le mari et elle. Et évidemment, la thérapeute, qui était une de ces Libanaises en exil, qui revenait après la guerre ouvrir un cabinet, c'était sa première explosion. Donc elle panique et c'est la patiente qui prend la thérapeute dans ses bras. Donc tout est à quatre pattes, le pays et la thérapie.
Est-ce que vous avez été traumatisée par ce qui s'est passé ce jour-là, comme le sont nombre de Libanais dont on a entendu les témoignages sur les radios, à la télévision, dans la presse ?
Mais je pense que l'idée de ce livre est partie justement de mon traumatisme. J'écrivais déjà avant le 4 août, mais le 4 août est venu détourner l'écriture de ce texte qui était parti de l'idée de la place de la littérature dans un pays qui part en déliquescence, où il est question de première nécessité, où il est question, on vient d'entendre le témoignage de cette femme, comment est-il encore décent d'écrire, l'écriture est devenue un luxe. Alors moi, bien sûr, j'ai été traumatisée, j'ai vécu la guerre, je suis née avec la guerre. J'ai l'âge de la guerre, parce qu'en 75, j'ai vraiment vécu que ça. Et je peux vous dire que jamais nous avions vécu encore ou expérimenté quelque chose de cette ampleur. C'est-à-dire que l'explosion n'a pas explosé dans Beyrouth, elle a implosé dans chaque foyer. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les Libanais sont en phase, sont encore traumatisés. Le plus grave dans tout ça, c'est que personne n'ait été incriminé, qu'il y ait eu un vide, un grand vide au pouvoir, qui fait qu'en fait, personne n'a été tenu responsable, ni de l'explosion, ni de notre déliquescence quotidienne, ni de toutes ces questions, ni de la pénurie, ni de l'essence, ni des hôpitaux. Il n'y a personne. Et aujourd'hui, on reforme un gouvernement. On reforme un gouvernement, en fait, qui est le cache-sexe de la corruption, puisque ce sont les pions, finalement, des mêmes qui sont toujours là et qui sont en train de nous n'avons pas de gouvernement si les gens avec qui nous ne voulons plus négocier, nous voulons une nouvelle classe, ce sont toujours les mêmes qui nous dirigent. Donc le Liban a un vrai problème institutionnel, un vrai problème au niveau du pouvoir, et c'est toujours le peuple qui paye, c'est toujours le peuple qui paye la facture très élevée de cet état des choses.
On va y revenir tout à l'heure. Bilal Tarabet, certains ont dit que la tragédie du port de Beyrouth avait provoqué plus de dégâts dans la ville que 30 ans de guerre. Vous partagez ce constat ?
Bah alors du coup c'est plutôt Ayam qui a connu la guerre. Moi je j'ai 39 ans, donc je l'ai connu mais à distance parce que j'ai grandi en France.
Mais vous avez vu Beyrouth avant la catastrophe,
aujourd'hui. Oui, en fait, si vous voulez, ce qui était très impressionnant, c'est qu'il y a, comme Beyrouth c'est tout petit, il y a 2, 3, 4 quartiers qui ont été complètement soufflés. Et ça jusqu'à aujourd'hui, en tout cas jusqu'au mois de juillet dernier, quand j'y étais, c'est-à-dire il y a un mois et demi, effectivement, là, c'est pas vraiment reconstruit. On a toujours des débris de verre au sol, ce qui est quand même assez à la fois impressionnant et très triste.
Alors vous êtes retourné sur place au mois d'août, donc un an après. Que sont devenus les gens qui, en quelques minutes, ont tout perdu en août 2020 ?
C'est très variable. Il y en a qui choisissent de rester et quelque part de se reconstruire. Ça va être un acte presque militant pour eux. Il y en a d'autres qui partent à l'étranger de plus en plus. Hein, ça, on peut en parler aussi. Une vraie hémorragie accentuée par cette explosion. Et puis, on a remarqué qu'il y en avait beaucoup, tout simplement, qui avaient quitté Beyrouth, qui étaient rentrés plutôt dans leur village d'origine ou qui vivaient un petit peu plus loin de la côte. À la fois parce que Beyrouth est devenue très triste après cette explosion, détruite. C'est une ville qui est dans le noir aussi. Hein. Il n'y a plus d'électricité, ça c'est extrêmement impressionnant. Moi, j'avais jamais connu ça. On arrive de l'aéroport Rafik Hariri pour vraiment dans une ville plongée dans le noir. C'est extrêmement triste aussi. Donc des gens qui sont retournés vivre en fait là où finalement les jeunes ne vivent pas en fait normalement. Ils vivent pas au village derrière, etc. Tout le monde était à Beyrouth. Et là, ils sont partis. Donc voilà, c'est variable.
Yam Yared, est-ce que la solidarité a joué pour tous ces gens qui se sont retrouvés sans rien du jour au lendemain? Est-ce que les autorités les ont pris en charge ou pas du tout?
Je vais vous dire quelque chose. Ce pays ne tient que grâce à la solidarité. Ce pays ne tient que grâce aux initiatives privées. Ce pays ne tient que grâce... Les quelques métiers qui restent sont les métiers que peuvent offrir et les salaires que peuvent offrir les sociétés qui continuent malgré tout, alors qu'elles pourraient se délocaliser, alors que toutes les sociétés étrangères qui ont accouru au Liban, dès qu'un... C'est ce qui est triste. C'est-à-dire qu'il y a un double discours aussi par rapport à la communauté internationale. On accourt avec nos sociétés. Dès qu'un pays va mal, on l'abandonne. C'est sauf qui peut. Il reste les sociétés libano-libanaises qui ne se délocalisent pas tous, qui essayent de survivre, qui cherchent des moyens pour continuer à maintenir des salaires. Eux-mêmes n'ont pas les moyens d'augmenter avec la dévaluation leurs salariés. Ils ne veulent pas les virer. Alors, ils pourraient mettre la clé sous la porte et se déclarer et arrêter de perdre de l'argent. Donc, il y a une vraie solidarité à toutes les échelles de la société, mais qui ne suffit pas. Et cette société a beau être inventive, a beau essayer de créer, d'inventer à chaque fois, et vraiment, elle est remarquable. Alors, on a le témoignage de cette femme, mais on n'a pas que ça. Je connais un tas de personnes qui justement, ont décidé de dire, bon, il n'y a pas d'État, nous allons compenser, nous allons nous-mêmes trouver des solutions. Et par exemple, moi, j'ai envie de donner l'exemple de ce qui reste, c'est un acte de foi, ce qui reste. C'est ça aussi la solidarité. C'est la solidarité des Libanais envers leur pays, de se dire, quand un bateau part à la dérive, on ne saute pas par-dessus bord, parce que voilà, au contraire, il faut l'accompagner. Et notamment un réalisateur que j'ai rencontré, dont la maison justement située tout près du port a été soufflée. Ils ont été saufs, lui, sa femme et son bébé de quelques mois, mais voilà, ils ont tout perdu matériellement. Et ils ont une double nationalité, vous savez. Donc, en fait, ils ont la capacité de partir. Eh bien, non. Ils ont décidé de rester alors que la famille de sa femme est à l'étranger, qu'ils ont les moyens. Et ils ont ouvert un pub alors qu'il est réalisateur pour survivre, pour créer un autre métier. Voilà. Il y a des actes de foi dans ce pays. Et il y a des gens remarquables. Et si ce pays existe, si ce pays dure, malgré tout, et il faut croire en lui pour qu'il existe, hein. Parce que si on arrête de croire en lui, forcément, il n'existera pas. Et ceux qui l'ont détruit auront gagné. Donc, moi, je veux saluer la foi de chaque Libanais qui, par choix, parce qu'il y en a qui n'ont pas le choix de rester, mais il y en a qui ont le choix et qui restent. Eh bien, ces Libanais-là, moi, je leur tire mon chapeau.
Et alors, ce dilemme, partir ou rester, il est très présent dans votre livre, puisqu'il déchire ce couple qui est au cœur de votre roman.
Bien sûr. Parce que, voilà, moi, je suis moi-même déchirée. On m'a dit, alors, partir ou rester? Moi, j'ai envie de dire les deux. Parce
vous
que
faites des
rester totalement, ouais, rester totalement, c'est quand même subir. Tout à l'heure, vous disiez de voir une ville plongée dans le noir tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est atrocement triste. Et il faut un peu respirer, mais jamais partir totalement. Et je pense que même les Libanais qui partent, même la diaspora, ils reviennent toujours. Je pense que l'espoir des Libanais réside dans cet entre-deux. Alors oui, ma narratrice dans le livre veut partir, le mari veut rester, il la pousse à aller justement acter sa double nationalité, puisque lui il est franco-libanais et qu'elle, elle est toujours un peu un peu molle pour aller administrativement affronter les limbes des papiers et de la paperasse. Et finalement, elle finit par accepter. Le 4 août a été un tel choc qu'elle se précipite pour ce double passeport, pour cette capacité finale, pour cette opportunité de se dire oui, on peut partir, mais en fait, à la fin du livre, elle se dit, bon, c'est une carte pour mieux rester, en fait. C'est ce que je dis. C'est-à-dire que essayez quand même de rester.
Un de vos personnages, Mike, qui a tout perdu dans l'explosion du 4 août, 35 appartements sur Airbnb dont il vivait avec sa famille, a décidé, lui, de rester, de fustiger la négligence criminelle de ceux qui n'ont rien fait pour déplacer les 2750 tonnes d'ammonium arrivées au Liban. Et il dit, si les privilégiés s'en vont, quel pays laisserons-nous à ceux qui n'ont pas le luxe de pouvoir le quitter? Bilal Tarabès, si le Liban perd ses forces vives, comment pourra-t-il s'en sortir, remonter la pente?
J'aime beaucoup la citation que vous venez de... Non, c'est très vrai. On risque de se retrouver avec un pays, si vous voulez, où ne restera que la partie de la population, malheureusement la moins favorisée, qui a eu moins de chance, au risque d'avoir de plus en plus d'illettrisme, de sous-instruction dans le pays, et une classe dirigeante, mafieuse, quoi, appelez-la comme vous voulez, et rien entre les deux. En fait, finalement. C'est-à-dire la vitalité de la classe moyenne libanaise que décrit très bien Hiyam depuis tout à l'heure, enfin depuis qu'on a commencé, celle-ci sera partie et c'est très malheureux parce qu'on a... alors évidemment, ici, on est sur RFI, hein, je pense que beaucoup imaginent bien de quoi on parle, mais un pays qui n'a pas de liant, de classe moyenne, même de gens instruits, d'un corps professoral correct, et des universités, même des lycées corrects, ça ne peut pas marcher.
Je vous propose de partir maintenant pour Beyrouth, rejoindre Valérie Cachard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes libanaise, autrice de théâtre. Vous avez été lauréate en 2019 du prix RFI Théâtre pour le texte Victoria K. Et vous enseignez l'écriture créative à l'université. Valérie, je crois que vous êtes en train de faire vos cartons de déménagement. Est-ce que c'est un départ provisoire ou définitif du Liban ?
Alors, je dirais provisoire, parce que comme le disait Hiyam tout à l'heure, en fait, on ne part pas vraiment. Enfin, on part et on revient. Et en ce moment, enfin, ça fait déjà 3 mois que je suis à nouveau dans ces allers-retours.
Et vous vous sentez soulagée ou déchirée à chaque fois que vous devez partir du Liban ?
Ben, pour l'instant, en fait, j'ai vécu ces dernières 5 années. Je suis partie en juillet, donc c'est tout récent. Et pour l'instant, j'y suis retournée parce que j'ai la chance de pouvoir amener 16 artistes du monde francophone qui vont venir travailler au Liban, dans un des lieux justement qui résiste, chez un collectif d'artistes, le collectif Kahraba, qui a décidé de rester. Donc pour l'instant, en fait, je suis très heureuse d'être là malgré toutes les difficultés, parce qu'on va réussir à faire des choses malgré la situation désastreuse.
Alors justement, qu'est-ce qui est le plus difficile à supporter en ce moment à Beyrouth ?
Écoutez, moi j'y suis depuis 2 jours, donc pour l'instant je n'ai pas beaucoup circulé parce que je n'ai pas beaucoup d'essence. Donc je dirais que ce qui est difficile, c'est cette adaptation en permanence en fait. C'est de devoir imaginer son parcours sur la semaine en fonction de l'essence qu'on a. De ne pas pouvoir faire certains rendez-vous alors qu'on devrait, d'être tributaire de l'électricité, des coupures. Par exemple, là, comme je suis en préparation de cette venue d'artiste, je suis sur mon mail en permanence et il faut que je sois patiente. Donc, c'est des petites choses qui font qu'on a du mal à être dans le travail, en fait. On est tout le temps coupé dans ce qu'on fait, dans le fil des idées, etc.
Et voilà. Et est-ce qu'on se sent coupable quand on a les, enfin coupable entre guillemets, hein, quand on a les moyens de se payer de l'électricité, par exemple, alors que les autres n'en ont que quelques heures par jour ?
Bah, en fait, on se sent toujours. Enfin, c'est pas qu'on se sent coupable, c'est que j'ai l'impression que le fait qu'il y a un dysfonctionnement au niveau de l'État fait qu'il y a des gens qui sont plus privilégiés que d'autres. Qui justement peuvent avoir plus d'électricité, avoir de l'argent frais, etc. Mais moi, j'essaye de ne pas rentrer dans ce jeu-là, parce que je ne pense pas que nous devons nous sentir coupables de ce dysfonctionnement, surtout quand on n'y a pas contribué. Voilà. Enfin, moi, je fais partie des gens qui vont voter en général, donc j'essaye de faire changer les choses.
Quel est l'impact de la crise économique sur le système scolaire ?
Ben, en fait, c'est un des systèmes qui souffre le plus. Donc, moi, j'ai longtemps enseigné dans des lycées et j'ai enseigné à l'université ces dernières années. Et les écoles sont en train de se vider de leurs élèves, de leurs professeurs. Et pour moi, l'éducation fait vraiment partie des fondations. Quelqu'un en parlait tout à l'heure, j'étais en train d'écouter. Et,
oui, Bilal qui est avec nous.
Voilà, et donc je pense que c'est aussi un des endroits où le gouvernement ne fait aucun effort. Et ça explique la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui, parce que Il y a déjà une énorme différence entre le système public et le système privé. Les programmes de l'éducation du ministère de l'éducation libanaise n'ont pas été revus depuis plus d'une cinquantaine d'années. Et donc ce n'est vraiment pas une école où on apprend des valeurs communes, où on est ouvert à l'autre. Donc il y a vraiment un gros travail. Pour moi, le travail doit commencer là, en fait.
Et alors, est-ce que vous voyez une issue à cette interminable crise politique ? Est-ce que vous croyez à un sursaut de la classe politique dirigeante ?
Écoutez, malheureusement, non. Par contre, je rejoins évidemment Iyam et Bilal sur la foi qu'ils ont dans les gens qui sont là. C'est-à-dire, la solution est toujours venue de la société civile. Je pense qu'il y a des gens aujourd'hui qui continuent, qui essayent, mais qui sont aussi en grande difficulté et mentale et psychique surtout, parce que ça demande vraiment de gros efforts d'adaptation en permanence, en fait. Tout ce qui arrive, tous ces dérèglements, ces pertes de repères. Je sais qu'il faut être patient, en fait. Il faut être très, très, très patient.
Merci beaucoup, Valérie Cachard, d'avoir été en ligne avec nous. Bonne journée à Beyrouth.
Depuis la morsure jusqu'à la morsure, des enfants perdus, princes des villes déchues, vendeurs à la criée, jasmin fleur d'oranger, la misère en collier sous la lune en croissant, fauche les blés innocents. Ne vois-tu pas la mer? As-tu reçu l'amour? Descente aux enfers, aller sans retour. À quoi bon les étoiles? Pour qui se lève le jour, pieds nus place des martyrs, le visage dans les mains. Où tu vis, d'où tu viens, t'es loin, t'es loin,
t'es loin. Au nom du Père, du Fils et de ceux qu'il renie.
Un ange passe.
Au nom du Père, du Fils et de ceux qu'il renie.
On s'empiffre, on se plaint. On pète vite un câble, on s'étripe, on s'étreint, on s'envoie au diable. On n'a pas la confiance, on pêche par orgueil, mais mouvant sur nos sables, inconciliable, inconsolable, comme la Madone en deuil.
Au nom du Père, du Fils et de ceux qu'il renie.
Un ange pas.
C'est de ceux qui renient.
Depuis la morsure jusqu'à la morceur, des enfants de cœur, princes des voleurs, Robin de Locksley, jasmin fleur d'oranger, la misère en collier sous la lune en croissant, des coches et flèches impunément. Ne vois-tu pas la mer? As-tu reçu l'amour? Chacun sa terre, mère, en guerre son poids lourd. Comment mettre des voiles, s'en aller faire un tour vers la place de l'étoile, jardin du Luxembourg. Où tu vis, d'où tu viens, t'es loin, t'es loin.
Au nom du Père, du Fils qui crèchait par ici.
Un ange passe.
Au nom du Père, du Fils bien au chaud à l'abri.
Au nom du Père, du Fils et de ceux qu'il renie. Un ange passe.
Au nom du Père, Cyril Mokayesh avec l'actrice libanaise Razan Jamal, extrait de l'album Paris-Beyrouth. Iyam Yared, le prix des denrées alimentaires a quadruplé au Liban. Comment font les familles pour se nourrir? De quoi se privent-elles aujourd'hui?
de tout. Moi, je connais, voilà, parler de... Si la classe moyenne s'est appauvrie, la classe moyenne n'achète plus de viande, mais les vrais, les pauvres, ceux qui n'avaient déjà pas les moyens de se nourrir, fabriquent avec les moyens de bord, doivent se contenter de peu, doivent inventer. Tout à l'heure, le témoignage de cette femme qui,
Oda,
elle, Oda,
qui racontait Oda donc
qui vend ses citrons. Elle vend ses citrons qui étaient avant. Elle a dit, avant, je faisais ça pour m'amuser, c'était pour moi. Et là, maintenant, elle se dit, bon, je n'ai plus de rentrée, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me nourrir de ma terre un peu, mais pas totalement, parce qu'il faut que je vende. Voilà. En fait, on fabrique des moyens. C'est atroce, vous savez, Göring disait, si vous voulez contrôler les peuples, c'est très simple, il y a un moyen, exercer la peur. Voilà. Eh bien, au Liban, c'est la famine. C'est la famine, c'est la pénurie. Et en fait, ils nous ont... comment voulez-vous penser à construire un pays si vous êtes occupé à régler vos problèmes électriques, à voir comment gérer vos déplacements? Impossible, ça devient un luxe. Et en fait, c'est ainsi qu'ils ont la mainmise sur ce pays. C'est parce que finalement, la classe moyenne, la classe qui a peut-être les moyens de se battre, est en train de partir, parce qu'elle est elle aussi fatiguée. Et il reste les plus démunis. Et les plus démunis sont tellement occupés à survivre qu'ils n'ont plus les moyens. Ma grande crainte, c'est la récupération électorale de cette situation. C'est-à-dire qu'avant, on sait très bien comment ces gens-là, qui se font réélire sans cesse, par un système électoral qui fonctionne sur des bases à parité confessionnelle et qui achète les électeurs, alors qu'avant, il fallait payer 100 dollars pour acheter leurs électeurs, aujourd'hui, 10 dollars vont leur suffire pour les acheter. C'est là la grande crainte.
Bilal Tarabet, chaque communauté s'organise pour aider les plus démunis parmi les siens et ça alimente le clientélisme politique dont parlait Iyam à l'instant.
Oh ben tout à fait. Il y a évidemment de ça. On a aussi tous vu le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, il y a quelques semaines, qui a fait venir des tankers d'Iran. Bon, exposant le pays à des sanctions internationales, etc. Mais bon, oui, évidemment, il y a les communautés s'organisent, mais je dirais que c'est surtout au niveau, plutôt, et Sahiyam en avait parlé, des cellules familiales, que la solidarité s'exerce le plus. Maintenant, je vais me permettre quelques petits exemples. Je discutais hier au téléphone avec des gens à Beyrouth, et quand vous parliez des prix des denrées qui ont quadruplé, apparemment, c'est multiplié par 10. Ouais. Ce que moi, j'ai vu quand j'y étais également en juillet. J'appelais hier parce qu'on a aussi le fait que la monnaie change tout le temps, en fait, le taux. Ça, dans la vie quotidienne, c'est un stress permanent. C'est-à-dire qu'on se lève tous les matins, on se couche tous les soirs en regardant combien vaut la livre au moment M par rapport au dollar, à tel point que vous allez dans des restaurants, par exemple, les prix ne sont plus affichés. Ou alors, s'ils sont affichés, il va vous dire « Excusez-moi, mais en fait, entre-temps, ça a changé ». Dans les épiceries, les prix sont écrits à la main sur des post-it, puisqu'ils les changent également tous les jours. On a cette blague, parce que les Libanais essaient de garder le sens de l'humour, qui dit « J'attrape un pot de mayonnaise au supermarché, le temps que j'arrive à la caisse, son prix a changé », mais c'est presque la vérité. C'est à propos, qu'est-ce qu'on peut remarquer aussi, que dans les restaurants, par exemple, le pain est servi de moins en moins. Et il y a aussi le fait que les gens se privent de viande et se privent de tout. Toute petite chose pour finir, parce qu'on parlait de l'emploi, on a des gens maintenant qui préfèrent ne pas aller travailler parce que la paye est trop faible et rester au village et attendre 100 dollars d'un cousin de la diaspora, sachant qu'aujourd'hui, le salaire minimum au Liban, c'est à peu près 42 dollars. J'ai fait un petit calcul, un SMIC au Liban, ça vous achète aujourd'hui 8 bouteilles d'huile de... Le tournesol.
Donc on comprend l'ampleur de la crise qui devient crise humanitaire. On va repartir à Beyrouth où nous attend Paul Khalife. Bonjour Paul.
Bonjour Chantal, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant au Liban. La crise donc a plongé dans la précarité des millions de Libanais, mais les femmes sont particulièrement touchées par la dégradation de la situation, et ce à tous les niveaux, Paul.
Oui Chantal, effectivement. Les femmes et les jeunes filles payent un lourd tribut, un lourd prix dans cette crise multiforme qui a mis à genoux l'économie et déréglé tous les aspects de la vie quotidienne, comme l'ont dit vos invités. Il n'y a pas de chiffres officiels. Alors, pour avoir une idée de l'ampleur du désastre, il faut aller vers les informations officieuses ou encore vers les rapports des agences internationales et des ONG. Ces rapports brossent un tableau sombre de la situation. Une source au ministère du Travail nous a indiqué dans ce contexte que 65% des centaines de milliers de personnes qui ont perdu leur emploi ces 18 derniers mois sont des femmes. Un rapport publié début juillet par l'UNICEF s'inquiète d'une multiplication des mariages précoces des jeunes filles face aux difficultés croissantes pour de nombreuses familles dans les régions les plus pauvres du Liban et au sein de la population des réfugiés syriens à assurer le minimum nécessaire à leurs enfants. La crise économique et l'inflation impactent aussi l'hygiène de vie des femmes. Dans un reportage publié le 1er juillet dernier, le Huffington Post indique que beaucoup de femmes n'ont plus les moyens de se procurer des serviettes hygiéniques. Celles-ci sont remplacées par des couches ou des serviettes confectionnées à la maison.
Paul Khalife, la vulnérabilité des enfants est également pointée par de nombreuses agences de l'ONU. Un rapport de l'UNICEF indique qu'au mois de mars, 30% des enfants avaient dormi le ventre vide. J'imagine que depuis cette date, la crise est encore amplifiée.
Oui, les chiffres fournis par les agences des Nations Unies ou les centres de recherche encore actifs au Liban témoignent de la gravité de la situation. Début août, par exemple, un rapport de l'UNICEF évoque la détresse psychologique qui règne chez les enfants un an après l'explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020 qui avait fait, on se souvient, 215 morts, plus de 6500 blessés et détruit une partie de la capitale. Les enfants d'un foyer sur trois, selon ce rapport, présentent encore des signes de traumatisme et ont du mal à se remettre des conséquences de la tragédie. Dans une autre étude qui date de juillet, la même agence UNICEF affirme que la santé et la sécurité des enfants au Liban sont à risque et leur avenir est mis en jeu. 15% des familles libanaises ont déscolarisé leurs enfants. Ce chiffre grimpe à 22% chez la population des réfugiés syriens, dont le nombre, il faut le rappeler quand même, s'élève au Liban à 1,5 million de personnes. Ce sont plus de 400 000 enfants qui ne suivent plus aucun enseignement et 25% des familles n'ont pas les moyens d'acquérir les outils nécessaires pour l'enseignement en ligne. Toujours selon ce document, un enfant sur 10 travaille, surtout dans les champs ou dans des usines, pour aider leur famille à subvenir à leurs besoins les plus élémentaires.
Merci beaucoup, Paul Khalife, pour ces précisions. À bientôt sur l'antenne de RFI. Bilal Tarabet, pourquoi les comptes en banque des Libanais sont-ils bloqués depuis plus d'un an ?
Mais parce qu'ils sont vides, en fait.
Et alors, ils sont vides parce que les Libanais ont eu peur et les
Non, ils sont vides parce que l'État, la Banque centrale libanaise, je vais vraiment passer sur les détails, mais en gros, a mis en place un système où elle se servait dans les... il y avait un deal entre les banques privées et la Banque centrale pour que les réserves, finalement, en dollars du pays... dans les banques privées, de la banque centrale, c'est ces réserves en dollars-là qui sont censées être des fonds souverains, en fait, c'était le compte en banque des gens. Donc, finalement, on ne peut pas retirer des dollars parce qu'il n'y a pas de dollars. C'est aussi simple que ça. La question, aujourd'hui, pour les Libanais et ceux qui avaient eu... parce qu'on pouvait ouvrir un compte en banque en dollars, en fait. Quand on va à la banque au Liban, quand on allait à la banque, on demandait si on voulait un compte en livres libanaises ou en dollars. Ces gens-là, en fait, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'ils vont récupérer un jour leurs économies et est-ce qu'ils vont en récupérer l'intégralité. Le déclassement au Liban est terrible. C'est vraiment ça qui m'a marqué. Je donnais l'exemple de la bouteille d'huile de colza ou de maïs, quand elle valait 5,3 $ il y a 3 ans. Et qu'aujourd'hui, en pouvoir d'achat réel, en dollars ressentis, moi, c'est comme ça que j'appelle ça, elle en vaut 56, on ne vit plus pareil. Et ce sont des gens qui ont de l'argent, en fait, de côté, mais qui n'en ont pas accès. Je finirai sur une petite chose. Les gens qui vivaient sur le front de mer, beaucoup de gens vivaient dans ces tours qui avaient littéralement le nez dans l'explosion de Beyrouth. Bon, ces tours, et c'est connu, c'est des projets architecturaux de très très haute gamme, d'accord ? Donc c'est des gens qui vivaient là-dedans d'un certain niveau, plus que de la classe moyenne, des gens très privilégiés. Bon, c'est des gens qui techniquement auraient les moyens de reconstruire, mais ils ne peuvent pas. Parce qu'encore une fois, leur compte en banque est vide. Inaccessible, si vous voulez.
Yam Yared, la crise a poussé les Libanais à inventer de nouveaux mots que vous employez en les explicitant en bas de page dans votre livre. On va prendre quelques exemples. Les lollards, qu'est-ce que c'est ?
Les lollards, justement, c'est les dollars emprisonnés à la banque. Donc forcément, ça devient des dollars de banque libanaise. Donc ce n'est plus les mêmes dollars que ceux qui ont été déposés initialement. Puisqu'avant la crise, un dollar dans votre poche était équivalent au dollar que vous déposiez à la banque. À partir du moment où il y a eu un contrôle des capitaux informels et une dévaluation de la livre qui donc a impacté aussi la valeur par rapport à la livre, tous les comptes bloqués en banque étaient donc sont restés indexés à une livre libanaise à 1500. Or, en dehors de la banque, la livre s'est mise à se dévaluer, elle s'est mise à valoir 15 000 et 18 000. Donc, votre compte en dollars qui était à la banque, indexé officiellement à 1500 toujours, ben, vous aviez 100 dollars, ça n'en vaut plus que 15. Parce que vous ne pouvez pas les sortir déjà, et quand vous les sortez, c'est au compte-gouttes. Donc, votre compte a été dévalué avec la dévaluation de la livre. Donc, il y a les dollars libanais qui valent 10 fois moins qu'un dollar dans votre poche. Donc, la poche, c'est fraîche dollar.
Ouais, j'allais le dire, la fraîche monnaie.
La fraîche monnaie et l'argent Monopoly. C'est l'argent de la banque. Voilà.
Alors, un autre néologisme, cachifié.
Cachifié. Alors, cachifié, aussitôt que y a eu ce contrôle informel, tout le monde s'est mis à vouloir donner les chèques contre du cash. Et là, il y a eu tout un marché où vous donnez votre chèque et on vous donne en contrepartie, qui est évalué en fonction de la dévaluation de la livre. C'est-à-dire, vous donnez 100, vous avez 85, puis 75, puis 60, puis 65. Donc avec une décote de 30, 40, 50, au fur et à mesure sur toute l'année, aujourd'hui, la décote est de 20%. C'est-à-dire, vous donnez 100 euros, votre chèque, et on vous en donne 20 de fraîche, donc 20 dans la poche. Voilà. Et c'est cette dévaluation qui est équivalente, en fait, à la cherté de vie, à justement le prix de ces 8... de ces 8 bouteilles d'huile. Voilà. Donc, tout le monde s'est appauvri. Les déposants, les privilégiés, les moins privilégiés, la classe moyenne qui se retrouve appauvrie vous savez, la classe moyenne est une classe très éduquée, qui n'a pas les grands moyens de ceux qui sont favorisés, mais qui a des moyens de vivre avec une certaine dignité, avec une éducation. Je reviens sur le principe de l'éducation et du système hospitalier qui étaient, en dépit de l'absence d'un État, les deux fondements de ce pays qui fonctionnait. Nous étions presque un tourisme, un exemple pour l'éducation. Le système éducatif libanais, je pense que la jeunesse le prouve, où qu'ils aillent dans le monde, ils sont parmi les plus brillants, parce que nous avons un système éducatif infaillible, excellent. Et là, tout à coup, il n'existe plus. Donc, je pense que la nation, ce pays, est en danger, est en vrai danger. Quand un pays n'a plus ce pôle-là de l'éducation à niveau, eh bien, vraiment, il y a une sonnette d'alarme à tirer. Moi, j'ai juste envie d'ajouter, finalement, dans cette déliquescence-là, dans ce vide institutionnel qui est quand même sur 20 ans, qui a été quand même orchestré sur 20 ans. Aujourd'hui, nous payons la conséquence d'un lent travail de 20 ans. Eh bien, j'ai juste envie de dire à qui il profite vraiment. À qui ? Indépendamment de... Bien sûr, il profite à nos mafieux. Mais il ne faut pas oublier que le Liban est bien plus, malheureusement, qu'un pays. C'est une carte dans des enjeux régionaux. Voilà. Ce que je voudrais ajouter.
Bilal Tarabet, que reste-t-il de la révolution d'octobre 2019, de cette chaîne humaine de 171 kilomètres qui, le 27 octobre 2019, réclamait justement la fin de la corruption, son ras-le-bol d'un régime contrôlé par les mêmes familles, les mêmes clans depuis 20 ou 30 ans? Qu'en reste-t-il de cet esprit de révolution qui a soufflé sur le Liban pendant quelques mois ?
Il en reste d'abord la constitution d'un certain nombre de partis politiques qui forment aujourd'hui un front de la révolution. Et ça, c'est des gens qui veulent se présenter aux élections législatives qui sont censées avoir lieu l'année prochaine. Et c'est d'ailleurs on va dire, l'une des deux tâches principales du nouveau gouvernement, avec ramener des fonds internationaux. Il reste, donc on a ces partis politiques, on a aussi, si vous voulez, l'ouverture d'un débat public réel. Avant, au Liban, la parole ne s'exprimait pas du tout comme ça. Des Libanais d'une certaine génération d'ailleurs m'ont dit, c'est la première fois aujourd'hui qu'on discute vraiment politique au Liban, qu'on discute programme. Parce qu'il faut dire qu'avant, c'était des questions de personnes, des questions de confession, des questions de religion. Il n'y avait pas des gens qui discutaient sur est-ce qu'on préfère une économie libérale, est-ce qu'on préfère un État centralisé, est-ce qu'on préfère du fédéralisme, est-ce que comment on va instituer, voilà. Tout ça, ce sont l'héritage du soulèvement du 17 octobre 2019. Et s'il a changé de nature parce que quand on n'a pas d'essence, quand on n'a pas d'argent, c'est très compliqué d'aller manifester gratuitement pour la bonne cause.
Et puis le Covid est passé par là aussi.
Le Covid est passé par là, évidemment. Elle est en train de se transformer en une force politique, à savoir si le système libanais va la laisser s'exprimer dans un vrai cadre démocratique. Ça reste à voir.
Parce qu'on a l'impression que rien ni personne ne peut convaincre les chefs des différentes communautés, chrétiens, musulmans, chiites ou sunnites, druzes, de faire passer l'intérêt du pays avant leurs propres intérêts.
Non, et ça a d'abord des racines historiques. C'est-à-dire que le Liban, avant d'être un pays, si vous voulez, avant d'être une république, c'était une espèce d'échiquier de communautés, si vous voulez, tribales, féodales, etc. Donc ça c'est ancré dans l'histoire. Premièrement, et deuxièmement, ils n'en ont pas intérêt, puisqu'en fait, le système au Liban, et là, je me permets de me mettre un tout petit peu en faux par rapport à Hayyam, si vous voulez, au Liban, l'argent protège. L'argent achète tout. L'argent achète l'éducation, achète l'hôpital, achète la fidélité des gens, etc. Et enfin, surtout, troisièmement, nombre d'entre eux sont des seigneurs de guerre. C'est-à-dire que quand on n'a pas flanché avec un pistolet sur la tempe, des réunions diplomatiques, voilà, il n'y a pas a priori de raison pour ces gens-là de s'effrayer outre mesure. Je donnerai juste un dernier exemple, Emmanuel Macron.
Voilà. Est-ce qu'il a fait preuve de naïveté en pensant qu'il pouvait être entendu par les dirigeants libanais?
Soit lui s'est surestimé, soit lui a sous-estimé, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là, la résilience de cette classe politique libanaise. Quand on a eu des mots aussi forts que le président de la République française, il eût fallu que derrière, ce soit suivi d'actes, si vous voulez, concrets, à la mesure des mots qui ont été prononcés. Parce qu'encore une fois, les dirigeants libanais, on parle de Michel Aoun, un président qui est largement au-delà des 80 ans, le président du Parlement, Nabih Berri, qui est là depuis 1993, et aussi à plus de 80 ans. Donc, ce n'est pas des gens qui sont nés, si vous voulez, de la dernière pluie. Et encore une fois, ce sont des seigneurs de guerre, ce sont des guerriers, ce sont des combattants. Donc on arrive devant eux avec un discours ferme, certes, mais pour ces gens-là, si vous voulez, si derrière, ça n'est pas suivi d'une, on va dire, de gestes forts, alors ce n'est pas à moi de dire quel geste fort, mais enfin, en tout cas, pas le néant que les Libanais ont constaté et qui a provoqué chez eux une immense déception, parce que ça aussi, il faut en parler. Si vous voulez, non, ça risque de pas marcher.
Hayyam Yared, dans votre livre Implosion, le mot résilient qu'on a souvent accolé aux Libanais met vos personnages en colère. Pourquoi ?
Parce que la résilience est un piège atroce qui est en fait l'assimilation de notre soumission et le renoncement presque à la révolte. Moi, je trouve qu'il faut jeter la résilience à la poubelle. Et s'en prendre. Et là où je me pose aussi, moi, en faux avec ce que disait tout à l'heure notre ami Bilal, c'est que le président Macron, quand il est venu, il les a peut-être tensés comme on tense des ex. Voilà, le mandat français, il y a un lien historique entre la France et le Liban. Et donc, il y a une espèce d'ascendance dans cette sommation. Mais ce qu'il a fait aussi, et ça, c'est le contre-discours, c'est qu'il les a invités à une table de négociation. Après quelque chose d'aussi grave que le 4 août, il a en fait, peut-être c'était mal calculé, mais il a bloqué la société civile dans sa légitimité à réclamer des comptes.
en fait, quand il les a légitimés dans leur rôle, dans la poursuite de leur mainmise, finalement, indirectement. Donc, je pense que c'était très, très maladroit, moi, à mon avis.
Voilà. On aura l'occasion de revenir sur la crise sanitaire, la crise humanitaire que traverse le Liban. Iyam Yared, Bilal Tarabeh, merci beaucoup d'avoir été nos invités. Iyam Yared, je renvoie nos auditeurs à votre livre « Implosion » publié aux éditions Équateur. Merci à Juliette Brault, Delphine de Dianous et Sigrid Azeroual qui m'ont aidé à préparer cette émission et à Romain Dubrac qui l'a réalisée. On se quitte avec Fayrouz, Li Beyrouth.
لبيروت من قلبي سلام لبيروت وقبل للبحر والبيوت لصخرة كأنها وجه بحار قديم
Demain, 7 milliards de voisins se penchera sur la diversité et l'égalité des chances au sein de l'éducation nationale en France. Est-ce facile de grimper les échelons quand on est femme et d'origine africaine? On en parlera avec notre invité Maï Traoré, proviseur d'un lycée parisien. Dans quelques secondes, le retour de l'info sur RFI.